Bonjour, bienvenue dans La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach professionnel et praticienne narrative. Je vous livre ici un mardi sur deux un conte qui m'a inspiré, quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bienvenue dans l'épisode 2 de La vie est un conte. Le conte que je souhaite vous présenter aujourd'hui s'appelle Le fermier chinois et il est tiré des philofables de Michel Pigmal. Il était une fois, deux fois, maintes fois, un fermier chinois qui, lors d'un marché de printemps, avait fait l'achat d'une superbe pouliche. Toutes ses économies y étaient passées. Hélas, à peine l'eut-il mis dans l'enclos que la nuit même, elle sautait la barrière et s'enfuyait en direction de la frontière moghole, avec qui les Chinois n'étaient pas en très bons termes. Il n'était même pas question de songer à courir à sa recherche. Tous les voisins vinrent pour le consoler. Mais ce paysan était sage et il savait traverser l'adversité avec philosophie. Aussi, leur dit-il, des nuages dans le ciel apportent parfois une pluie bénéfique pour les cultures. D'un malheur naît parfois du bonheur. Laissons faire la vie. Qui sait ce qu'il en adviendra? Effectivement, quelques jours plus tard, la pouliche revint, accompagnée d'un superbe étalon moghol. Tout le village défila pour l'admirer et féliciter le paysan de sa bonne fortune. Celui-ci répondit « Une chance, peut-être, mais qui connaît le fond des choses? Le soleil qui nous éclaire peut aussi nous brûler ?» L'avenir, hélas, lui donna raison. Son fils s'enticha de l'étalon et il passa des heures à tenter de le dresser pour le monter. Mais l'animal était fougueux et d'une ruade il envoya à terre le fils qui se brisa la jambe. Les voisins vinrent à son chevet et les commérages allaient bon train sur la malchance du paysan. On était tout près de la moisson. Avec sa jambe cassée, son fils ne pourrait guère l'aider. Mais le paysan leur répondit avec sagesse une fois de plus. « Ce monde n'est qu'un perpétuel changement. Qui sait si les calamités ne deviennent pas des bénédictions? Songez à la lave des volcans qui dévastent tout mais donnent un limon fertile. » Avant même la récolte, la guerre éclata avec les Moghols. Tous les jeunes hommes furent mobilisés, sauf bien sûr le fils du paysan, couché au fond de son lit. Il fut l'un des seuls à survivre au massacre de la guerre. Une jambe cassée lui sauva la vie. Le recul permet toujours de mieux apprécier les choses et de redonner à certains événements la place qu'ils méritent. Samuel Blumenfeld. Comme dans tout conte, il est possible de tirer plusieurs enseignements et je vais m'attacher plus particulièrement à deux d'entre eux. Le premier sera dirigé sur l'attitude des voisins et le second sur celle du fermier chinois. Regardons d'abord le comportement des voisins face aux vicissitudes de la vie de ce fermier chinois. Ils sont tantôt là pour le consoler, parfois pour le féliciter ou simplement commenter. On pourrait voir dans cette attitude de la solidarité une certaine préoccupation de l'autre, de l'empathie, ou tout au contraire un moyen de chasser l'ennui en se réfugiant dans des bavardages indiscrets, des commérages, une curiosité plus ou moins malsaine. Nous ne pouvons pas savoir à travers ce conte quelles sont leurs intentions. Mais Ce type d'attitude, caressant dans le sens du poil, félicitant quand l'événement est jugé positif et plaignant au contraire quand il est jugé négatif, est contre-productif. Plaindre peut revenir à alimenter davantage un récit dominant de plainte et donc enfermer l'autre dans son malheur. En effet, la plainte, toute légitime qu'elle puisse être, est un refuge qui enferme dans l'impuissance en ce qu'elle met à l'extérieur de soi une résolution possible du problème. De même, féliciter quelqu'un pour sa bonne fortune n'aide pas à capitaliser sur des atouts et des compétences, car c'est mettre de la même manière la réussite à l'extérieur de l'individu. Je me souviens d'une anecdote racontée par Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, où, suite à une conférence, une spectatrice était venue le féliciter en lui disant qu'il avait été formidable. Ce à quoi Marshall Rosenberg lui avait répondu que son retour ne lui servait absolument à rien, car il ne disait pas ce qu'il avait fait pour lui donner cette impression de formidable, ni en quoi il avait été aidant pour elle. Dans ce conte, il est intéressant de voir que ce sont les villageois qui plaignent ou se réjouissent. L'attitude du fermier chinois est tout autre. On pourrait y voir un stoïcisme, une impassibilité face à la douleur et aux épreuves de la vie, et même face à ses joies. Et moi, j'ai envie d'y voir surtout de l'acceptation. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui en termes de coaching, c'est de travailler sur comment muscler son acceptation. La première chose est d'avoir à l'esprit la distinction entre résignation et acceptation. L'attitude n'est pas du tout la même. Dans la première, la résignation se fait dans la contrainte et la douleur. La seconde, au contraire, est proactive et volontaire. Un premier outil que je trouve utile pour aller vers l'acceptation est les cercles d'influence de Stephen Covey, qu'il présente dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». L'idée, selon Stephen Covey, est que la totalité de l'énergie que l'on dépense chaque jour à s'occuper des choses plus ou moins importantes et plus ou moins urgentes peut se classer en 3 cercles. Je vais vous décrire ce modèle. Imaginez, ou même mieux, tracez sur une feuille si vous en avez la possibilité quand vous écoutez ce podcast, si vous n'êtes pas au volant et si vous disposez de papier et de crayon avec vous. Je vous invite à tracer ou à imaginer 3 cercles concentriques, c'est-à-dire imbriqués les uns dans les autres à la manière de poupées russes. Le cercle le plus proche du centre, et donc le plus petit, est le cercle de contrôle. Celui un peu plus grand est le cercle d'influence. Et enfin, le dernier et le plus grand est le cercle des préoccupations. Commençons par celui-ci. Le cercle des préoccupations rassemble toutes les choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par exemple, les faits divers, les décisions gouvernementales, les guerres dans le monde, le montant des impôts, etc. Il est frustrant et énergivore de passer son temps à se plaindre de choses extérieures à nous, comme dire « Oh là là, il va pleuvoir toute la semaine, quelle guigne !» Et pour prendre des exemples d'actualité, ça pourrait être aussi critiquer en permanence la gestion de la crise du Covid par l'État, ou se plaindre de l'attitude de ces personnes qui se réunissent à plus de 6 malgré les interdictions, voire participent à des rêves parties en plein confinement, etc. Ou encore de se plaindre de l'incompétence de son N+1. Ça peut être aussi toutes ces préoccupations sur un futur hypothétique du type s'il devait arriver malheur à mon conjoint, qu'est-ce que je deviendrais ? Perdre son énergie dans ce cercle des préoccupations engendre un processus de rumination autour de pensées qui peuvent devenir toxiques et qui n'ont pour résultat que de nous frustrer, de renforcer l'emprise des autres sur notre vie et de cultiver un esprit négatif. Remarquons que notre fermier chinois se voit dans ce conte confronté à plusieurs éléments qui sont justement dans ce cercle des préoccupations. En effet, que peut-il contre la fuite de sa jument dans le pays moghol? Que peut-il faire contre la jambe brisée de son fils si ce n'est de laisser le temps faire son œuvre de réparation? Aussi répond-il avec sagesse à ses voisins, « Laissons faire la vie ». Ensuite, nous avons le cercle d'influence. Ici, il s'agit des choses sur lesquels nous n'avons pas de contrôle direct, mais que nous pouvons en revanche influencer par nos actions, nos pensées. Contrairement au premier cercle que je viens de décrire, nous avons la possibilité de faire évoluer les choses. C'est toutefois ici que nous allons déployer le plus de travail. Par exemple, j'ai une collaboratrice qui a beaucoup de mal à mener des réunions en anglais. Je vais pouvoir l'encourager à perfectionner son anglais via des cours en ligne ou l'inscrire à une formation sur l'animation de réunions en contexte multiculturel ou encore l'accompagner moi-même sur certaines réunions, etc. Je peux l'influencer pour qu'elle progresse et gagne en confort dans l'animation de ses réunions en anglais. Enfin, le dernier cercle, le plus petit, est le cercle de contrôle. C'est celui sur lequel nous sommes directement aux commandes. Ici, vous avez affaire aux choses sur lesquelles vous avez un contrôle total. Pas d'excuses ou de blabla inutile, c'est vous et vous seul qui avez la main mise sur ce cercle. Certains éléments externes peuvent venir vous influencer, mais globalement, ici, tout dépend de vous. Ce sont les problèmes dans lesquels notre comportement est mis en cause. Il s'agit là de ce que nous décidons, de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de nos efforts, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur les méthodes d'acceptation, et nous y reviendrons dans de prochains épisodes de ce podcast. Mais un premier petit pas possible est déjà de faire le tri dans nos pensées actuelles entre ces trois cercles. Et à l'instar de notre fermier chinois, faire le choix d'accepter pleinement de laisser faire la vie sur tout ce qui se trouve dans le cercle de nos préoccupations. Accepter notre impuissance à cet endroit précis et pourquoi pas faire le choix de la confiance. C'est donc ne pas dépenser d'énergie inutilement et concentrer toute son énergie sur les cercles d'influence et de contrôle. Si nous portons notre regard sur l'entreprise et le collectif, nous pouvons aussi faire ce travail de tri. Dans les réunions d'équipe, par exemple, il peut être intéressant d'observer combien de temps de parole est utilisé sur chacun des cercles. Il peut même être intéressant de faire le travail collectivement, en équipe, pas uniquement le manager. Constater objectivement le temps de parole sur chacun et puis de regarder pourquoi passe-t-on autant de temps sur le cercle des préoccupations et comment utiliser cette énergie sur les deux autres cercles. Et puis se poser la question aussi, si des choses sont dans notre cercle d'influence, comment peut-on influencer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer? Et si d'autres choses sont dans notre cercle de contrôle et ne sont pas faites, alors il faut se poser la question de qu'est-ce qui empêche l'équipe d'avancer, qu'est-ce qui fait que des choses qui sont sous notre contrôle ne sont pas faites. Et là, peut-être qu'il faudra aller chercher ailleurs, je ne sais pas, dans la motivation intrinsèque ou plein d'autres choses. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un outil précieux en équipe que ces trois cercles de préoccupation, d'influence et de contrôle. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous retrouve dans 15 jours pour le troisième épisode de La vie est un conte où nous parlerons d'un bûcheron et de la force d'observer notre façon d'agir. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestunconte.com. À bientôt !